Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Un podcast pour les apprenants, les parents et les profs qui veulent plonger dans la pédagogie Montessori et les neurosciences. Avant d'écouter ce nouvel épisode, j'ai trois propositions à vous faire. Si vous êtes parent d'un enfant au collège et que vous avez à cœur son plein épanouissement, vous pouvez télécharger gratuitement sur mon blog le PDF « Le cerveau des adolescents est littéralement génial ». Si vous avez des enfants ou des élèves entre 7 et 12 ans, vous pourrez découvrir « Je mémorise la conjugaison », une méthode que j'ai créée pour que la conjugaison redevienne un jeu d'enfant. Pour les profs des écoles qui souhaitent s'engager dans une formation et être soutenus dans leur transition éducative, je vous accompagne lors de la formation Montessori, une pédagogie en cohérence avec le fonctionnement du cerveau. Parents et professeurs des écoles, rendez-vous donc sur mon blog montessori-apprendreautrement.com. Je suis Céline Guerrero, prof des écoles, formatrice Montessori, réalisatrice de ce podcast et prête à tout pour que chaque enfant développe son plein potentiel. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette transition éducative. Et partagez les épisodes qui vous plaisent avec vos amis et vos collègues. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la colère. Je viens de rentrer de 2 jours de stage en communication non violente sur la colère. Et j'ai eu l'élan de faire un épisode toute seule aujourd'hui, sans invité, pour vous parler de tout ce que j'ai vécu. Alors peut-être pas tout, mais en tout cas de moments que j'ai vécu pendant ces 2 journées. Et des connaissances aussi que j'ai acquises. Alors j'ai hésité un peu parce que voilà, je ne suis pas spécialiste en communication non violente, j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, mais je ressentais de la joie à l'idée de vous partager toutes ces découvertes, je ressentais de la joie, donc je me suis dit allez, j'arrête de me poser des questions et je partage avec vous tout ce que j'ai découvert. Donc avant de vous parler de la colère, je ne sais pas si vous avez déjà fait des stages en communication non violente, et même si je trouve que c'est un outil de communication extraordinaire, je ne suis pas là aujourd'hui pour essayer de vous convaincre. J'ai tendance, quand je trouve un outil ou une pédagogie extraordinaire, à vouloir convaincre l'autre. C'est trop génial, faut que tout le monde s'y mette. Mais en fait, je pense que j'ai pris conscience pendant ces 2 jours de l'importance de respecter là où la personne est. Une des participantes donnait l'exemple de protéger la planète et elle était voilà, vraiment à fond et faisait beaucoup de choses pour protéger la planète. Mais du coup, elle attendait des autres qu'ils en fassent d'eux-mêmes. Et voilà, en écoutant son témoignage, j'ai pris conscience que bah, chaque personne est à un endroit du chemin et voilà, tout le monde ne peut pas avancer au même rythme sur ce chemin, donc c'est pas en essayant de convaincre les gens qu'on arrivera à les... Enfin voilà, on ne peut pas les forcer à avancer plus vite ou à avancer à notre rythme. Donc même si je trouve que la communication non violente est un outil extraordinaire et qui peut vraiment nous aider à apporter plus de conscience sur nos émotions, sur nos besoins, sur ceux des autres, je vous partage voilà, en toute simplicité ce qui m'a marqué pendant ces 2 jours. Donc avant de parler déjà de la colère, j'aurais envie de vous dire que déjà nos émotions, ce sont elles qui nous ont permis de survivre toutes ces années. Donc on ne peut pas parler de maîtriser nos émotions, je veux maîtriser ma colère. Je pense que c'est important d'accueillir la beauté de nos émotions. Elles sont là pour nous envoyer un message et ce message, on ne peut pas l'ignorer. Enfin, c'est dommage, en tout cas. Ce serait dommage de l'ignorer. C'est pas, on ne peut pas. Et donc, pour parler plus précisément de la colère, déjà, je voudrais préciser que c'est pas une émotion négative. On entend souvent des émotions positives, la joie, des émotions négatives, la peur, la tristesse, la colère. Et justement, positif, négatif, ça sous-entend que certaines émotions sont négatives. Et non, elles ne sont pas négatives, elles sont là pour nous apporter une information. Donc je préfère parler d'émotions agréables ou désagréables. Donc évidemment, la joie, c'est plus agréable de ressentir de la joie que de ressentir de la colère. Mais je vais vous lire un petit paragraphe là sur la colère que je trouve très pertinent. La colère a pu se mettre en place dans notre jeunesse comme stratégie de survie. Dans un moment où nous n'avions pas les moyens de gérer notre désespoir, notre peur, notre impuissance. Elle nous a donné de la force pour survivre. D'où le sens de l'accueillir avec cette conscience et de la remercier pour ce qu'elle nous a donné, c'est-à-dire de l'énergie. Donc je trouve beau ce paragraphe et ça nous permet de réaliser qu'on peut transformer la colère contre quelque chose pour quelque chose. Et cette énergie, voilà, elle peut être utile, enfin elle est utile. Voilà. En fait, la colère, c'est un signal d'alarme qui peut être fort, mais voilà, qui nous indique que nous sommes dans notre tête, coupés de nos besoins. J'ai pris conscience, en fait, grâce à ces deux journées, que c'est incompatible d'être à la fois en colère et en lien avec nos besoins. Donc, ça peut vraiment être judicieux de voir quand on est en colère, bah, quel besoin n'est pas nourri, n'est pas satisfait. Et oui, et dans ce petit paragraphe, on parlait de peur, de tristesse, d'impuissance, là. Et donc, en effet, la peur, la tristesse, l'impuissance peuvent déclencher la colère. Dans le processus de communication non violente, on commence toujours par observer les faits. Et on essaye de les décrire de manière objective. Hein, on décrit, voilà, le fait déclencheur, ce qui s'est passé. Et ça, justement, ça peut être le stimulus de la colère. Je vais vous donner un exemple à chaque fois. Vous avez rendez-vous au restaurant avec une amie à midi, et à 12h30, elle n'est toujours pas là. Voilà, ça c'est le fait déclencheur, c'est le stimulus de votre colère. Ensuite, la cause de votre colère, ça va être tous vos jugements, tout ce qu'on se dit dans notre tête. Elle aurait dû arriver à l'heure, elle aurait dû me prévenir. Donc voilà, à chaque fois c'est il, elle, aurait dû, n'aurait pas dû, ou il, elle, devrait ou ne devrait pas. C'est tous nos jugements, tous nos reproches envers l'autre. Et envers soi-même, des fois. Ensuite, la racine de la colère, bah, ça va être le besoin qui n'est pas nourri. Donc, le fait de pouvoir se relier à notre besoin, ça permet de comment dire, ça permet d'avoir plus conscience, en fait. Conscience de la colère, on ressent de la colère parce que ce besoin n'est pas nourri. Hein? Donc voilà, ça c'est les trois aspects de la colère. Le stimulus, la cause et la racine. Hein? Donc le stimulus, c'est le fait qui a eu lieu. Quelqu'un qui nous a dit ou pas dit, a fait ou pas fait, pas fait quelque chose. La cause, c'est tout notre système de jugement et d'exigence qui se met en route dans notre tête. Et la racine, bah, ce sont les besoins essentiels qui ne sont pas satisfaits. Et oui, voilà, c'est vrai, en trouvant les besoins... en trouvant nos besoins, bah, on se donne beaucoup plus de chances de faire une demande qui nous comblera et d'être mieux reçu par l'autre. Donc, certaines situations, on ressent de l'impuissance parce qu'on ne peut pas les changer. On ne pouvait pas prévoir que notre amie allait arriver à 12h40, alors qu'on avait rendez-vous à midi. Mais ce qui est important, donc ça c'est le jour 1, on va dire, c'est qu'en jour 2, en jour 3, en jour 15, on va pouvoir agir différemment. On va pouvoir modifier les choses, surtout quand on a... Alors, sur certaines situations, on ne peut pas agir, mais sur celles sur lesquelles on peut agir, eh ben, on va pouvoir modifier dans les jours qui suivent. Et pendant ce stage, on a fait plusieurs activités qui ont permis de mieux comprendre notre rapport à la colère. Et donc je vais vous en dire deux déjà. Le premier, c'était d'écrire sur une feuille notre rapport à la colère, enfin notre relation à la colère, pendant l'enfance, pendant l'adolescence et maintenant à l'âge adulte. Et donc notre relation, voilà, comment on exprimait notre colère et en parallèle, comment on accueillait la colère des autres. Donc j'ai trouvé cet exercice vraiment intéressant pour prendre... C'est pas le genre d'exercice qu'on va faire au quotidien quand on est pressé toute la journée. Et ces stages de CNV, à chaque fois, c'est des moments de pause, de réflexion, de conscience. Et c'est ça que je trouve vraiment chouette. Le deuxième, c'était avec une feuille où il y avait plein d'adjectifs. C'est un peu comme le centimètre de la colère, en fait. Si on est agacé, c'est pas la même chose que d'être fâché, que d'être en colère ou d'être scandalisé. Vous voyez, il y a plusieurs degrés, en fait. Et avec cette feuille où il y avait plein d'adjectifs, eh ben, on devait les classer, enfin, ou en tout cas en choisir quelques-uns, et les classer pour faire comme l'échelle de la colère, comme l'échelle de Richter. Le fait voilà, de les classer sur un... Sur, bon, moi, j'ai fait ça sur une ligne. Hein. Et donc, du coup, ça peut être intéressant, quand on ressent de la colère, d'essayer de mesurer de la mesurer. Est-ce qu'on est juste agacé? Est-ce qu'on est en pétard? Est-ce qu'on est révolté? Et quand on a quelqu'un en face de nous qui ressent beaucoup de colère, ça peut être bien d'essayer de mesurer sa colère. C'est ça qu'on appelle l'empathie, en fait, hein, le fait d'être à l'écoute de l'autre et de pouvoir dire « Ouh là là, j'ai l'impression que t'es vraiment agacé ». Et peut-être que l'autre en face, il va nous dire « Non, non, c'est plus fort que de l'agacement. Là, je suis vraiment exaspérée. » L'idéal est de ne pas taper trop haut, de plutôt essayer voilà, d'évaluer de manière juste et vaut mieux un petit peu en dessous qu'un peu au-dessus. Et puis la personne en face de nous nous dira si on n'a pas, si on n'a pas assez, si c'était pas assez fort. Hein? Mais voilà, j'aime bien cette idée de centimètres comme l'échelle de Richter, parce que du coup, ça permet de trouver des adjectifs qui correspondent à différents degrés de colère. Un autre exercice qu'on a fait qui était vraiment intéressant, c'était de réfléchir, pas toujours sur une, enfin, pas toujours, mais sur une échelle de 0 à 10, à quelle. À quelle fréquence on ressent de la colère? Est-ce que c'est alors 0, ça veut dire jamais, et 10, ça veut dire très souvent. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant de voir où on se place par rapport au ressenti. Et après, sur une autre échelle de 0 à 10, on peut réfléchir à l'expression. À quel 0, ça veut dire qu'on n'exprime jamais notre colère, et 10, qu'on l'exprime très souvent. Voilà, donc si ça vous intéresse, hein, je vous invite à utiliser tous ces petits exercices là que je vous partage, si vous avez envie d'avancer un peu, d'avoir plus conscience de ce que vous vivez. Ah oui, et l'avantage de ce centimètre, c'est que quand le stimulus, par exemple l'ami qui arrive en retard au restaurant, il est entre 0 et 5, si ma réaction elle est entre 5 et 10, bah, ça veut dire que notre colère elle est un peu disproportionnée par rapport au stimulus. Donc là, souvent, dans ce cas-là, ça veut dire que ce sont les blessures du passé qui nous parlent. Et voilà, c'est pas. Il y a un décalage, quoi, entre le stimulus et puis notre réaction. Un autre exercice qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, c'est quand le formateur nous a demandé d'écrire tout ce qui nous met en colère. Alors là, c'était vraiment intéressant parce que. Ça pouvait être des toutes petites choses comme je suis agacée quand quelqu'un n'éteint pas son moteur au drive ou des exemples plus forts voilà, que je ne vais pas partager du coup, mais moi j'ai pu noter tout ce qui me mettait en colère et là je me suis pas occupée de ce centimètre, j'ai pas pris le temps de mesurer si c'était voilà, juste de l'agacement ou si c'était vraiment beaucoup plus fort, mais le fait de pouvoir tout écrire. Ben moi, ça m'a fait un bien fou. Et ensuite, après avoir écrit tout ce qui nous mettait en colère, on a eu l'occasion de. Alors, c'était une proposition, hein, on n'était pas obligé, évidemment. Mais on a eu l'opportunité de déchirer des feuilles de papier journal. Alors, on pensait à une situation, on déchirait la feuille et on pouvait la jeter, voilà, la jeter dans la poubelle. Enfin, là, c'était possible, mais par contre, quand on revenait jusqu'à notre chaise, on devait essayer de penser aux besoins qui n'avaient pas été nourris. Donc, c'est ça qui était vraiment très intéressant, augmenter notre vocabulaire pour être capable de trouver le besoin pas nourri. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, là, de transformer la colère contre quelque chose, pour quelque chose, bah, ça nous donne de l'énergie et on peut utiliser cette énergie comme une puissance au service de notre besoin. Voilà. Et quand je suis en lien avec ce que j'ai besoin, ben, y a quelque chose qui se transforme. Marshall Rosenberg disait, ne laisse à personne le pouvoir de te soumettre ou de te rebeller. Il faut pas oublier que les besoins sont légitimes. Donc, quand on est accroché à notre besoin, on peut des fois sous-estimer le besoin de l'autre. Si je vous donne l'exemple dans un couple, un mari, voilà, se remet à la course à pied. Donc il est trop content, enfin voilà, il revient de la course, c'était un peu boueux, donc ses chaussures sont toutes sales, il arrive dans le salon et il dit à sa femme, oh là là, c'était génial, ça m'a fait un bien fou de me remettre à la course. Et si sa femme, elle lui répond, oh là là, t'es en train de tout salir le salon, là, va poser tes chaussures, une fois, deux fois, trois fois, enfin chaque jour ça se renouvelle, ben du coup ils ont tous les deux un besoin, mais ils sont pas en mesure d'écouter le besoin de l'autre en fait. Et c'est un peu comme deux enfants qui veulent parler en même temps, Prums. Et voilà, l'idéal c'est d'avoir conscience que tous les besoins sont légitimes, donc on peut nourrir nos besoins. Tout en écoutant aussi en écoutant les besoins de l'autre. Pendant ces 2 jours, ça m'a aussi aidé à refaire la distinction entre une émotion et un sentiment. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais en fait, une émotion, c'est une réaction biologique. Hop, tout de suite, là, je vais ressentir de la tristesse, de la joie, de la peur. Et c'est assez court en général. Voilà, on peut pas ne pas ressentir une émotion, c'est impossible. Et la différence avec le sentiment, c'est ce qui va rester une fois que l'émotion commence à se dissoudre. Donc le sentiment, il peut plus traîner en longueur et durer plus longtemps. Voilà. Et ce qui était intéressant pendant le stage, c'était de ressentir nos sensations corporelles. Donc c'est encore différent de l'émotion, hein. Les sensations corporelles, ça peut être... il y en a plein, mais ça peut être des picotements, ça me gratte, j'ai le souffle coupé... Mes jambes sont toutes faibles. Enfin voilà, vous voyez, il y a plein de sensations corporelles qui peuvent surgir. Donc voilà, c'est important, je trouve, des fois, d'être un peu à l'écoute de notre corps pour en prendre conscience. Ah oui, sur le trajet à l'aller, j'avais un passager BlaBlaCar avec moi et donc il m'a demandé pourquoi j'allais, enfin où est-ce que j'allais. Et quand je lui ai dit que j'allais faire un stage de communication non violente, il ne connaissait pas. Et j'ai eu beaucoup de mal à lui expliquer ce que c'était, parce que ça, avec la Covid, là, ça faisait 2 ans que j'avais pas fait de stage et que je m'étais un peu trop éloignée de la CNV. Et voilà, j'ai pas trouvé les mots vraiment pour lui expliquer. Mais du coup, je cherchais, je me suis dit si au retour mes passagers me demandent, j'avais envie d'être plus claire. Et sur un petit fascicule que le formateur nous a donné, c'était noté l'art de vivre avec soi et avec les autres. Et j'aime beaucoup cette façon d'expliquer la communication non violente. L'art de vivre avec soi et avec les autres. Et je me rappelle que pour mon tout premier stage de CNV, ça devait être en 2018, j'y allais pour l'art de vivre avec les autres. Et j'avais pris conscience qu'en fait, déjà, c'est l'art de vivre avec soi. Ça commence par là, en fait, c'est la base. Et voilà, c'est ça que j'aime en fait dans la CNV, pouvoir mettre de la conscience sur ce qu'on ressent, sur nos besoins, et en quelque sorte de reprendre du pouvoir sur notre vie. Hein? Sinon c'est l'autre qui a tout le pouvoir. Oui, le formateur nous a aussi parlé un petit peu de culpabilité, parce que tout est lié. Donc même s'il y a un stage de 2 jours sur la culpabilité, il en a parlé un petit peu. Parce qu'en fait, quand on a de la colère contre soi, ben c'est presque plus de la culpabilité que de la colère. Et il a utilisé la métaphore d'un pendule et qui oscille entre whoop, la culpabilité, hop, la colère. Et si par exemple quelqu'un vous fait le reproche de manger des avocats, oui, mais tu penses pas à la planète quand tu manges tes avocats, c'est pas ça va, c'est pas possible. Ben en fait, il y a deux façons de réagir. Et soit on va être en colère contre l'autre, et donc voilà, c'est de la colère. Soit on va être en colère contre soi-même, et c'est plutôt de la honte et de la culpabilité qu'on va ressentir. Et ça peut des fois être aussi un peu les deux, hein. On peut avoir un pied un peu de chaque côté. Mais ça peut être intéressant de clarifier en fait ce qu'on ressent. Et puis souvent, on va osciller de la colère à la culpabilité. Donc c'est ce que j'ai pris conscience qu'en fait, dans une situation. Il avait donné l'exemple, je crois, quand on épouse notre conjoint, voilà, on va à ce moment-là, donc T0, et ben ça va être la meilleure stratégie qu'on a trouvée par rapport à notre environnement, par rapport à notre conscience, nos besoins, nos moyens. Voilà, si on a épousé notre conjoint il y a 10 ans, 20 ans, et ben c'était la voilà, la, ça nous semblait être la bonne, la meilleure chose. Mais si 10 ans plus tard, ça a évolué, en fait, c'est dommage de se culpabiliser. Parce que, oui, nos besoins ne sont peut-être plus les mêmes, nos moyens ne sont plus les mêmes, notre environnement n'est peut-être plus le même. Mais en tout cas, à T0, quand on l'avait fait, bah, c'était la stratégie qui nous paraissait la meilleure. Donc, voilà. Après, bon là, j'ai pris un exemple important, mais si c'était quelque chose de plus simple, comme par exemple, un ami vous propose d'aller faire la fête, et vous y allez, et le lendemain, vous êtes fatigué, et voilà, ça va pas, vous êtes trop fatigué le lendemain. Bon, bah ça, à T0, vous avez accepté d'aller faire la fête parce que, voilà, c'est par rapport à votre situation, votre environnement, votre conscience, vos besoins et vos moyens, bah ça vous paraissait la meilleure stratégie. Par contre, si vous avez pris conscience le lendemain que voilà, votre fatigue était quand même un peu trop importante, bah, l'idéal, c'est de ne pas reproduire voilà, à T2, à T3, de pouvoir prendre la meilleure stratégie, enfin de choisir la meilleure stratégie les jours suivants. Ah oui, un petit signe que j'ai beaucoup aimé, c'est l'été. Donc été, ça veut dire élan, temps et énergie. Donc des fois, on n'a pas l'élan, ni le temps, ni l'énergie, ou il en manque un des trois ou deux des trois, pour écouter l'autre. Et on peut lui dire, voilà, on peut lui dire que c'est pas le bon moment, sans forcément être agressif. Et, enfin, on peut être en colère et dire non, on peut crier sa colère en mode girafe. Voilà, on peut aussi hurler nos besoins en mode girafe. Mais la différence, en fait, ça va être entre le tu et le je. Voilà, si on dit tu me gonfles, bah, c'est pas la même chose que de dire j'ai besoin de calme. Hein. Donc ce tu qui tue, là, ça, je m'en rappelais bien. Donc voilà. Et c'est marrant parce que quand je suis rentrée le soir, j'avais qu'une envie, c'était de raconter tout ce que j'avais vécu à ma famille. Et mon mari, voilà, je sentais que c'était pas le bon moment pour lui. Donc je lui ai dit, est-ce que t'as l'élan, le temps, l'énergie, là, est-ce que t'es en été? Et voilà, c'était pas le bon moment. Mais le fait de savoir si l'autre est prêt à nous écouter, je trouve ça super utile parce qu'en fait, si on a très envie de partager quelque chose et que pour l'autre personne, c'est pas le bon moment, bah, vaut mieux le savoir avant parce que sinon, on va s'agacer en fait le fait de ne pas avoir été écouté. Donc oui, la différence, c'est faut réussir à faire la différence entre exiger de l'écoute ou demander de l'écoute. Et parfois, bon, si là c'était juste un soir, donc c'est pas grave, mais si ça dure plusieurs soirs et que j'ai vraiment mon besoin d'écoute n'est pas satisfait, eh ben on peut aussi aller le chercher vers quelqu'un d'autre. On n'est pas toujours obligé de demander à notre conjoint de nourrir ce besoin-là. Hein, on n'est pas, c'est pas un distributeur d'empathie. Donc si ce besoin n'est pas nourri, bah, c'est pas parce que c'est notre conjoint que c'est la seule personne à pouvoir le nourrir. Hein, c'est important aussi des fois d'aller chercher de l'écoute ailleurs. Et par rapport au centimètre que je vous disais tout à l'heure, là, le fait de classer nos émotions, de les différencier en fonction du degré, hors de moi, furieuse, en colère, énervée, agacée. En fait, ces sentiments sont à la mesure des besoins. Hors de moi, c'est vraiment un besoin super important qui n'est pas nourri. Furieuse, un petit peu moins, en colère, un petit peu moins, énervée encore moins et agacée encore moins. Hein, donc c'est vraiment, ces sentiments sont à la mesure des besoins. Le sentiment, il donne la mesure et le besoin donne la nature de ce que je vis. Donc voilà, je vais aller regarder ce qu'il y a derrière cette furie. Si je me sens vraiment furieuse, je vais aller regarder ce qu'il y a derrière cette furie. Quel est mon besoin ? Dans le processus de CNV, je vous ai parlé de l'observation. Ensuite, c'est observation, sentiment, besoin, demande, OSBD. Mais ce que j'ai pris conscience pendant le stage, c'est l'importance de clarifier notre intention. Parce qu'en fait, si notre intention, c'est de montrer à l'autre que ce qu'il a fait, c'est mal, bah, c'est pas la peine d'utiliser la CNV, si c'est ça mon intention. Donc, clarifier l'intention... Avant d'utiliser ce processus, ça peut vraiment être nécessaire. J'ai pris conscience aussi d'un besoin. J'avais mal identifié le besoin. Quand ma fille ne range pas, quand il y a plein de jeux, plein d'habits, plein de choses, plein d'affaires partout dans le salon, je pensais que c'était mon besoin d'ordre. Et en fait, c'est quelqu'un d'autre qui a donné cet exemple et ça m'a beaucoup parlé. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si c'était vraiment mon besoin d'ordre qui n'était pas nourri, eh ben je pourrais, j'aurais juste à ranger moi-même et hop, mon besoin d'ordre serait nourri. Et là, en fait, c'est pas ça mon besoin. C'est de vivre que dans ma famille, chaque personne prenne ses responsabilités. Et donc vous voyez, j'avais mal identifié le besoin, alors que c'est une situation, un problème récurrent. Donc d'où l'intérêt de réussir à bien analyser le besoin. Et pour terminer cet épisode, je vais vous partager le dernier exercice qu'on a fait. Donc on était quatre, et chacun à notre tour, on lisait une phrase, alors ils appellent ça un scud, par exemple, « Oh, c'est pas possible d'écrire avec des pattes de mouche comme ça, c'est illisible ». Ou alors, « Oh, mais votre chien, il n'arrête pas d'aboyer, c'est insupportable. » Et donc, on devait essayer de mesurer, oui, d'évaluer la force de la colère et de trouver le besoin de l'autre. Donc, je vais vous lire un exemple, je vais vous lire un exemple que j'ai utilisé, qui avait par rapport à la lecture. Et c'était « Je veux pas lire, non, je lirai pas. Tu n'as pas envie de lire ?» Non, non, non. Ça t'agace quand j'insiste. Oui. Enfin, oui, déjà, il se calme, l'enfant souvent se calme un peu. Oui. Et est-ce que tu aurais besoin de jouer, là, maintenant? Oui. Ben, moi, je me sens triste parce que je sais que tu as déjà pris beaucoup de plaisir en lisant tes romans et j'aimerais être rassurée sur le fait que tu reprennes un jour du plaisir. Donc, vous voyez un peu la... Alors, c'était un exemple que j'avais écrit, hein, donc il est sûrement pas parfait. Alors, je vais terminer cet épisode par une phrase que j'ai déjà citée plusieurs fois, mais qui m'a beaucoup marquée. Il s'agit de passer de la colère contre quelqu'un ou quelque chose à la colère pour. C'est-à-dire utiliser cette énergie comme une puissance au service de mon besoin. Voilà, je ne sais pas ce que cet épisode vous aura apporté, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Et en tout cas, moi, ça m'a apporté beaucoup de joie de pouvoir partager avec vous ce que j'ai vécu pendant ces 2 jours de CNV et pour moi-même aussi le fait de remettre des mots sur toutes ces expériences durant ce stage. Je pense que ça peut aussi m'apporter et me permettre de que la CNV reste présente dans mon quotidien. J'ai très envie en fait de toutes ces notes que j'ai prises, si je les laisse dans mon cahier et que je range le cahier dans mon bureau, bah je risque à nouveau de m'éloigner de ce chemin. Donc j'ai eu l'idée, alors je l'avais déjà fait, j'avais déjà mis des post-it dans la salle de bain sur j'écris les phrases ou je dessine des petites choses qui sont importantes et j'avais collé tous ces post-it dans la salle de bain. Bon, comme là ça fait depuis 2018, ils y sont toujours, mais un peu voilà, c'est vrai que je ne les regarde plus. La salle de bain, c'était peut-être pas l'idéal. Là, j'ai envie de nettoyer la porte du... Enfin, nettoyer, vider tout ce qu'il y a sur la porte du frigo, toutes les cartes postales, et à la place, coller des nouveaux post-it avec les phrases qui sont les plus importantes pour moi, pour que ça soit des petits rappels, voilà, des rappels quotidiens. Le frigo dans la cuisine, voilà, c'est un endroit quand même qui est bien, bien central, où on est souvent. Et j'ai envie de pouvoir avoir ces phrases, ces mots sous les yeux pour qu'au quotidien je progresse. Voilà, c'est pas évident, mais je pense que c'est une stratégie qui pourra nous apporter à tous. Voilà, j'espère que ça vous apportera aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine !